Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 15. De l'entraide par gros temps. Troisième partie. Anglin, Arkansas, le 3 janvier 1931.
L'interminable sécheresse qui a ruiné des centaines de fermes de l'Arkansas l'été dernier a, hier encore, produit des effets spectaculaires lorsque 500 fermiers, pour la plupart des blancs, presque tous armés, ont marché sur les quartiers commerçants de cette ville, réclamant à grands cris des vêtements et de la nourriture pour eux et leurs familles. Les manifestants annoncèrent leur intention de les prendre dans les boutiques si on ne leur en fournissait pas gratuitement par un autre moyen.
Détroit, 9 juillet 1931.
Hier soir, un début d'émeute ayant pour cible le bureau municipal du logement et regroupant 500 chômeurs environ a été réprimé par les renforts de la police à Cadillac Square.
Indiana, Harbor, Indiana, 5 août 1931.
Les locaux de la Fruit Growers Express Company ont été détruits par 1500 chômeurs qui exigeaient qu'on leur donne du travail pour ne pas mourir de faim. L'entreprise répondit en faisant appel à la police locale, qui dispersa les chômeurs à coups de matraque.
Boston, 10 novembre 1931.
À la suite d'affrontements entre les dockers en grève et les noirs briseurs de grève sur les quais de Charleston, à l'est de Boston, 20 personnes ont été blessées, 3 d'entre elles si grièvement qu'elles pourraient en mourir, et des dizaines d'autres soignent leurs blessures, causées par les jets de bouteilles et de pierres et les bagarres aux tuyaux de plomb.
Détroit, 28 novembre 1931.
Un membre de la police montée a été frappé à la tête par une pierre, avant de tomber de son cheval. En outre, un manifestant a été arrêté au cours des troubles qui ont eu lieu à Grand Circus Park ce matin, lorsque 2000 hommes et femmes se sont réunis pour protester contre les mesures policières.
Chicago, 1er avril 1931.
500 écoliers, pour la plupart hagards et en haillons, ont défilé dans Chicago en direction des locaux du bureau de l'éducation pour exiger que le système scolaire leur fournisse de quoi manger.
Boston, 3 juin 1932.
25 gamins affamés ont attaqué le buffet organisé pour les vétérans de la guerre espagnole pendant un défilé à Boston. Il a fallu 2 quarts de police pour les disperser.
New York, 21 janvier 1933.
Plusieurs centaines de chômeurs ont aujourd'hui cerné un restaurant aux environs de Union Square en réclamant qu'on les laisse manger gratuitement.
Seattle, 16 février 1933.
Le siège des locaux de l'administration du comté par une armée de quelques 5000 chômeurs aura duré 2 jours. Avant de prendre fin dans la soirée, les adjoints du shérif et la police ont réussi à venir à bout des manifestants après 2 heures de confrontation.
La colère des vétérans de la Première Guerre mondiale qui se retrouvaient au chômage sans pouvoir nourrir leur famille fut à l'origine de la marche de la Bonus Army sur Washington au printemps et à l'été 1932. Les anciens combattants, brandissant les certificats gouvernementaux qui leur garantissaient des indemnités, réclamèrent qu'on les leur verse sur le champ tant ils en avaient désespérément besoin. Seuls, ou accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, au volant de vieilles voitures épuisées, en passagers clandestins, à bord des trains de marchandises ou en autostop, ils arrivèrent de partout à Washington. C'étaient des mineurs de Virginie-Occidentale, des tauliers de Columbus en Géorgie, des chômeurs polonais de Chicago. Une famille, le mari, la femme et leurs enfants de 3 ans, mit 3 mois, passant d'un train de marchandises à l'autre, pour venir de Californie. Chief Running Wolf, un mescalero sans travail, arriva également du Nouveau-Mexique, en costume traditionnel, avec arc et flèche. Ils étaient plus de 20 000, à camper sur l'autre rive du Potomac, en face du Capitole, dans les marais de l'Anacostia, où, comme l'écrivait J. John Dos Passos.
Les hommes couchaient dans des abris faits de vieux journaux, de boîtes de carton, d'emballages de plaques de fer blanc ou de toiles goudronnées, bref, toutes sortes de constructions mal fichues, d'abris contre la pluie fabriqués à partir de ce qu'ils trouvaient dans la décharge municipale.
Le décret, destiné à autoriser le paiement des fameuses indemnités, fut voté par la Chambre, puis rejeté par le Sénat. Certains vétérans, découragés, levèrent le camp. La plupart, cependant, restèrent sur place, les uns occupant des bâtiments officiels, les autres demeurant dans les marais de l'Anacostia. Finalement, le président Hoover ordonna à l'armée de les chasser. 4 escadrons de cavalerie, 4 compagnies d'infanterie, une batterie de mitrailleuses et 6 tanks se regroupèrent près de la Maison Blanche. Le général Douglas MacArthur fut chargé de l'opération, secondé par le major Dwight Eisenhower. George Patton faisait également partie des officiers. MacArthur fit parader ses troupes le long de Pennsylvania Avenue et utilisa les gaz lacrymogènes pour expulser les vétérans des vieux bâtiments qu'ils occupaient avant d'y mettre le feu. L'armée traversa ensuite le pont pour rejoindre Anacostia. Des milliers d'anciens combattants s'enfuirent avec femmes et enfants pour échapper aux bombes lacrymo. Les soldats incendièrent quelques baraques. Tout le campement fut bientôt la proie des flammes. Quand tout fut fini, 2 vétérans avaient été abattus, 1 bébé de 11 semaines était mort, 1 garçon de 8 ans avait pratiquement perdu la vue à cause des gaz lacrymogènes, 2 policiers avaient eu le crâne fracturé et des milliers de vétérans souffraient des effets des lacrymogènes. L'extrême dureté de l'époque, l'inaction du gouvernement quand il s'agissait d'apporter de l'aide et son efficacité lorsqu'il s'agissait de disperser les vétérans influèrent sur les élections présidentielles de novembre 1932. Le candidat démocrate Roosevelt l'emporta très largement sur Hoover. Roosevelt entra en fonction au printemps 1933 et lança un programme de réforme qui devint fameux sous le nom de « New Deal ». Quand les vétérans organisèrent une modeste marche sur Washington au début de son mandat, Roosevelt les reçut et leur offrit du café. Ils rencontrèrent l'un de ses conseillers et rentrèrent finalement chez eux. Illustration parfaite de la méthode Roosevelt. Les réformes de Roosevelt allaient bien plus loin que toutes celles qui les avaient précédées. Elles visaient 2 objectifs essentiels. Réorganiser le capitalisme de manière à dépasser la crise et à stabiliser le système et calmer les très nombreux mouvements de révolte spontanés qui marquèrent les débuts de l'administration Roosevelt, comme, par exemple, les organisations de locataires ou de chômeurs, les mouvements d'entraide et les grèves générales qui touchèrent plusieurs villes. Pour stabiliser le système afin d'assurer sa survie, Roosevelt fit voter 5 mois après sa prise de fonction, une première grande loi, le National Industrial Recovery Act, NIRA, NIRA. Il s'agissait de prendre le contrôle de l'économie à travers une série de codes négociés à la fois par les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. Ces codes fixaient des minima pour les prix et les salaires et limitaient la concurrence. D'emblée, la National Recovery Administration fut contrôlée par le milieu des affaires et mise au service de ses intérêts. Selon Bernard Beloche, The Failure of the NRA, le premier article de la loi confiait la plus grande part du pouvoir de la nation aux combinats les mieux organisés et aux riches associations commerciales. Le public non organisé, plus connu sous l'étiquette de consommateurs, comme les membres du mouvement syndical balbutiant, ne furent pas vraiment consultés, ni sur l'organisation initiale de la National Recovery Administration, ni sur les principes de sa politique. Dans les branches où les syndicats étaient puissants, Roosevelt accepta de faire quelques concessions aux travailleurs. Mais, là où ils étaient faibles, Roosevelt ne tenta pas de résister aux pressions des porte-paroles du monde industriel, qui souhaitaient maîtriser les codes conçus dans le cadre de la NRA. Dans son livre « Towards a New Past », Barton Bernstein confirme que En dépit des réticences de certains hommes d'affaires, sur quelques points, la NRA réaffirmait et consolidait leur autorité. Belloche résume ainsi son point de vue sur la NRA.
La Maison-Blanche permit à l'Association nationale des industriels, à la Chambre de commerce, aux alliances industrielles et aux associations commerciales de jouir d'une autorité prépondérante. Ainsi, l'administration privée devint l'administration publique et le gouvernement privé devint le gouvernement public, assurant le mariage du capitalisme et de l'étatisme.
En 1935, prétendant que cette loi conférait trop de pouvoir au président, la Cour suprême frappa la NRA d'inconstitutionnalité. Roosevelt avait pourtant, comme l'écrit Belloche, abandonné au travers de la NRA une partie démesurée de l'autorité gouvernementale aux représentants du monde industriel américain. L'AAA, Agricultural Adjustment Administration, fut également votée dans les 5 premiers mois de l'administration Roosevelt. Il s'agissait d'une tentative de réorganisation du secteur agricole qui, à l'instar de la NRA, servit surtout les intérêts des grandes exploitations agricoles. En revanche, la TVA, Tennessee Valley Authority, constitua une intrusion inhabituelle du gouvernement dans les affaires. Il s'agissait d'un réseau public, de barrages et de centrales hydroélectriques destinées à lutter contre les inondations et à produire de l'électricité dans la vallée du Tennessee. Elle fournit du travail aux chômeurs et de l'électricité peu onéreuse aux consommateurs. D'une certaine manière, une telle réforme, comme on le lui reprocha d'ailleurs bien souvent à l'époque, était socialiste. L'organisation économique du New Deal visait cependant avant tout à stabiliser l'économie et, secondairement, à venir suffisamment en aide aux classes les plus défavorisées pour les empêcher de transformer une simple révolte en véritable révolution. Car cet esprit de révolte existait bel et bien lorsque Roosevelt devint président. Les gens les plus désespérés ne comptaient plus sur l'aide du gouvernement. Ils s'en remettaient à eux-mêmes et prenaient des initiatives. Tante Molly Jackson, qui prit plus tard une part active dans les luttes sociales des Appalaches, a raconté comment elle était un jour entrée dans la boutique du coin et avait demandé 24 livres de farine. Après avoir donné le sac à son petit garçon pour qu'il l'emporte, elle se servit un paquet de sucre et dit au commerçant « Bon, je reviendrai dans 90 jours, j'ai quelques enfants à nourrir là. Je vous paierai, ne vous inquiétez pas. » Lorsque le commerçant fit quelques objections, elle sortit son revolver. En tant que sage-femme, se déplaçant souvent seule, elle était autorisée à en posséder un. Et elle déclara « Martin, si tu essaies de me prendre ce paquet, peu importe si je passe sur la chaise électrique, je te tirerai mes 6 coups en une minute. » Alors, se souvient-elle, je suis sortie pour retourner chez moi, et mes 7 mômes avaient tellement faim qu'ils ont arraché la pâte à pain encore crue des mains de leur mère pour l'avaler d'un coup. Dans tout le pays, les gens réagissaient spontanément pour faire cesser les expulsions. À New York, à Chicago et dans bien d'autres villes, lorsque le bruit courait que quelqu'un allait être expulsé, les gens se réunissaient. La police sortait les meubles dans la rue et la foule les réinstallait aussitôt. Le Parti communiste était particulièrement actif dans l'organisation des groupes de l'Alliance ouvrière dans les villes. Madame Willie Jeffries, une femme noire, raconta les expulsions à Strud Starkel. Beaucoup de gens étaient expulsés. L'huissier arrivait et les expulsait. Aussitôt qu'il était parti, on les réinstallait. Tout ce qu'on avait à faire, c'était d'appeler Brother Hilton. On lui disait « Écoute, à tel endroit, il y a une famille à la rue ». Toute personne qui passait dans le coin et qui était membre de l'Alliance ouvrière savait à qui il fallait s'adresser. Le type arrivait avec 50 autres gars. On remettait les trucs où ils étaient avant. Les hommes rebranchaient l'électricité et allaient chez le quincailler prendre un tuyau de gaz pour raccorder le four. On vous remettait les meubles juste là où ils étaient avant. C'était comme si on vous avait jamais mis dehors. En 1931-1932, le gouvernement et les employeurs ayant cessé de leur venir en aide, les gens s'organisèrent pour se débrouiller par eux-mêmes. À Seattle, le syndicat des pêcheurs échangeait le poisson contre les fruits et les légumes cultivés par d'autres. Les bûcherons faisaient de même. Il existait 22 endroits différents dans lesquels on pouvait échanger de la nourriture et du bois de chauffage contre d'autres produits ou des services. Coiffeurs, couturières et médecins y exerçaient leur talent en échange d'autres biens ou services. À la fin de 1932, on comptait 330 organisations d'entraide, réparties dans 37 États et regroupant quelque 300 000 membres. Début 1933, le mouvement sembla s'éteindre. La tâche était sans doute trop difficile à mener à bien dans le cadre d'une économie qui s'enfonçait dans une pagaille toujours plus grande. Les responsables du New Deal, Roosevelt, ses conseillers et les hommes d'affaires qui le soutenaient, avaient-ils eux aussi une conscience de classe ? Avaient-ils compris que des mesures devaient être prises d'urgence en 1933 et 34 pour fournir du travail, de la nourriture et des secours, pour écarter l'idée selon laquelle les problèmes des travailleurs ne peuvent être résolus que par les travailleurs eux-mêmes ? Sans doute, à l'instar de la prise de conscience des ouvriers, s'agissait-il d'un ensemble de mesures ne devant rien à une stratégie préconçue, mais s'appuyant plutôt sur une instinctive nécessité pratique? Peut-être est-ce cette sorte de vague conscience de classe qui entraîna, en 1934, la présentation devant le Congrès du décret Wagner-Connery, destiné à encadrer les conflits sociaux. Ce décret proposait l'élection de représentants syndicaux, ainsi que la création d'un conseil spécial pour régler les problèmes et étudier les revendications. N'était-ce pas le type même de législation destinée à en finir avec l'idée que les problèmes des travailleurs ne peuvent être résolus que par les travailleurs eux-mêmes ? Le monde des affaires estima que le décret favorisait les travailleurs et s'y opposa. Quant à Roosevelt, il n'appréciait guère l'idée. Cependant, en 1934, une série de conflits sociaux imposa la nécessité d'une démarche législative en ce domaine. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.